France Culture.
Comme tous les jeudis, nous dressons le portrait d'individus qui ont contribué à changer de regard sur l'économie et sur ce que cette discipline fait à nos vies. Et de fait, de vie, il va beaucoup être question aujourd'hui, puisque Viviana Zelizer a consacré la sienne à tenter de comprendre l'incompréhensible et à tenter d'estimer l'inestimable, le prix de la vie humaine. Pour elle, le tournant du XXe siècle est une révolution en soi. On cesse alors d'évaluer une existence humaine à l'aune du travail accompli pour la placer dans une qui est totalement incompatible avec ses considérations, celles de l'amour, de l'affection, de l'intimité. Ce passage du prix à la valeur apparaît dans toutes ses contradictions lorsqu'il s'agit d'estimer, en monnaie sonnante et trébuchante, la valeur de la perte de cette vie. C'est donc à travers les tribunaux et à travers l'histoire qu'elle traîne son regard de sociologue pour comprendre à quelles limites se heurte le marché, alors même que celui-ci prend désormais toute la place. L'argent, devenu à la fois étalon suprême et repoussoir ultime dans le cadre de relations humaines, a bien une signification, une charge morale. Bref, il a, pour Viviana Zelizer, une odeur. Et deux invités sont avec nous pour évoquer cette grande figure de la sociologie économique et ses travaux. Jeanne Lazarus, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS et membre du Centre de sociologie des organisations à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Sybille Bgolak, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous êtes également sociologue, chercheuse au CNRS au sein de l'équipe Culture et Société Urbaine du Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris. Vous avez rédigé la préface de l'ouvrage récemment traduit en français de Viviana Zelizer, Fixer la valeur monétaire des enfants. C'est paru aux éditions Rue d'Ulm. Vous êtes également co-autrice avec Céline Bessière du genre du capital, Comment la famille reproduit les inégalités. Ça s'est paru à la Découverte il y a quelques années, en 2019. Alors, pour bien comprendre qui est Viviana Zelizer et comment elle a marqué les sciences sociales et économiques, je vous propose de l'écouter elle-même raconter son parcours lors de sa remise du titre de docteur honoris causa de Sciences Po le 13 novembre 2019.
Je suis devenue spécialiste de l'histoire culturelle économique américaine. Mais deux éléments inattendus m'ont rappelé mes racines françaises. D'abord, la traduction française de mon livre « La signification sociale de l'argent », préfacé de Jérôme Bourdieu et Johann Helbron, m'a mis en contact avec des chercheurs français, ce qui m'a ouvert les yeux à l'épanouissement des sciences humaines en France. J'espère que vous m'excuserez maintenant de continuer mon exposé en anglais, que c'est ma langue de travail, malgré mes origines hispanophones et francophones.
Après près d'un demi-siècle à étudier la vie économique et plus précisément à essayer de comprendre les intersections entre les activités économiques, les relations interpersonnelles et les cultures communes, je dois dire que je trouve les récents développements dans notre domaine encourageants. Quand j'ai commencé mon parcours académique dans les années 70, je n'aurais en réalité jamais imaginé me retrouver au cœur d'un domaine appelé la sociologie économique. Pourquoi est-ce arrivé? Pour deux raisons principales. Premièrement, parce que mon intention était d'étudier la culture et la morale dans un domaine conçu pour expliquer l'influence des réseaux de sociabilité sur l'économie. Deuxièmement, en raison de ma volonté de proposer une définition nouvelle de ce que nous devrions considérer comme le vrai regard économique qui se place au-delà de la focalisation sur les marchés et les corporations capitalistes. Fixer la valeur monétaire des enfants a permis de réfléchir à la manière dont les Américains ont réagi à des changements économiques que d'autres ont décrits comme une rationalisation inévitable. Cette exploration des transformations culturelles et des débats moraux est sans doute une anomalie parmi les chercheurs impliqués dans le lancement de la nouvelle sociologie économique des années 80. En réalité, je ne considère même pas avoir contribué à ce domaine naissant. Pourquoi ? Parce que ces pionniers se sont délibérément concentrés sur les réseaux de sociabilité, restant à l'écart des systèmes de signification. Surtout, ils ont abordé l'analyse des relations sociales en tant que contexte, en tant que paramètre externe des processus économiques. Avec quelques autres sociologues dissidents, j'en suis venu à remettre en cause cette approche par le contexte, en faveur d'alternatives plus subversives. Dans ces analyses alternatives, nous étudions ces significations communes et ces relations sociales, non pas à travers un contexte, mais en les plaçant au cœur même de l'activité économique, incluant le territoire, auparavant sacré et inexploré des marchés et de l'argent.
Sybille Golak, que représente Viviana Zelizer aujourd'hui dans le champ académique américain ? Est-ce qu'elle est toujours considérée comme, elle se définissait elle-même dans cet extrait, comme une dissidente ?
Alors, je me sens pas forcément très bien placée pour répondre à cette question, mais si peut-être certains la considéreront plus comme une dissidente, ce qui est certain, c'est que c'est une pionnière. Puisqu'effectivement, elle a forcé la sociologie économique à s'intéresser à des sphères de la vie sociale des individus, notamment la sphère familiale, que délaisser la sociologie économique au profit des mondes de l'entreprise, des mondes marchands.
Donc de ce point de vue-là, on le comprend, c'est une pionnière, vous l'avez dit. Jeanne Lazarus, Viviana Zelizer, a suivi des études de sociologie à l'Université de Columbia. C'est là qu'elle obtient son doctorat en 1977. Elle a ensuite dirigé le département de sociologie au Barnard College. Puis elle est élue à Princeton en 1988. Est-ce qu'il est pour autant possible de ranger, entre guillemets, Viviana Zelizer dans une case, malgré ses études dites de sociologie ? Est-ce qu'on peut la définir comme quoi, une sociologue de la famille, une sociologue de l'économie, tout cela à la fois ?
Oui, justement, elle est à la croisée de plusieurs champs de la sociologie. C'est souvent le cas des figures importantes. C'est des gens qui ont réussi à faire discuter ensemble des enjeux qui étaient jusque-là traités séparément. Donc, elle est une sociologue de l'économie, il n'y a aucun doute. La plupart n'importe quel cours de sociologie économique, n'importe où dans le monde, fait lire aux étudiants les travaux de Viviana Zelizer. Donc, on ne peut pas ne pas la classer dans ce champ-là où elle est complètement reconnue. Mais elle est aussi lue par les gens qui travaillent sur la famille, par les gens qui peuvent travailler sur des enjeux de genre. Et d'ailleurs, de plus en plus, au fur et à mesure de sa carrière, elle est allée vers des questions de gender studies qui n'étaient pas forcément centrales au départ. Et puis, bien sûr, des gens qui travaillent sur les marchés. Elle peut aussi intéresser des historiens parce que son approche est très historique. Donc, même si elle n'est pas historienne, elle peut être lue par des historiens de la famille, de la culture. Et comme elle le dit d'ailleurs dans cet extrait, hein, Elle se définit comme une sociologue de la morale et de la culture, mais dans ce champ spécifique qui est l'intersection entre la valorisation économique et l'intime, le familial, l'amoureux, qu'elle a traité depuis le début de son travail.
Et puis voilà, qui répond aussi à la question d'une éventuelle dissidence. On l'a compris à travers ce que vous nous avez dit, Jeanne Lazarus, il y a une forme de reconnaissance autour de Viviana Zelizer et de ses travaux. Je crois que vous étiez présente, Jeanne Lazarus, le 13 novembre 2019, au moment où est enregistré l'extrait qu'on vient d'entendre. Comment on explique le fait que Viviana Zelizer soit à ce point reconnue en France spécifiquement ? Est-ce qu'il y a des liens particuliers ?
Oui, bah alors comme elle se dit, j'avais eu l'honneur de lui remettre le doctorat honoris causa à Sciences Po. Et comme elle le dit, en fait, elle a été traduite dans d'abord un article, puis son ouvrage « La signification sociale de l'argent ». Donc les Français ont lu son travail depuis longtemps. Et ce qui est frappant, c'est que quand elle vient en France, relativement régulièrement depuis une trentaine d'années, les gens qui viennent l'écouter sont très divers. Plusieurs champs de la sociologie qui se parlent pas toujours se réunissent autour d'elle. Parce que d'abord, c'est elle-même une personne extrêmement généreuse et qui a noué des liens avec beaucoup de monde. Mais il y a aussi que le travail qu'elle fait et les outils intellectuels, méthodologiques qu'elle propose peuvent se marier avec plusieurs façons de faire de la sociologie. Et donc, il y a quelque chose de très... à la fois de très disponible dans le travail qu'elle propose, tout en ayant des concepts qui sont très nets et qu'on peut utiliser. Mais je pense que voilà, c'est une première chose.
De plasticité qui permet peut-être.
Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi que la sociologie française s'est beaucoup intéressée à des enjeux qui intéressent Viviane Azélizer, et notamment ces questions d'argent domestique, de façon de regarder des enjeux économiques. Non seulement en n'étant pas complètement centré sur les outils de l'économie, de la science économique, mais pas non plus avec ce dont elle parle aussi dans cet extrait, les outils de la sociologie économique qui s'intéresse au marché, aux réseaux sociaux, et qui fait finalement relativement peu de cas d'enjeux plus culturels ou plus interpersonnels.
C'est ça, parce que c'est peut-être un point sur lequel il faut un tout petit peu insister pour bien comprendre le champ aussi disciplinaire qui est le sien. C'est pas forcément évident, finalement, cette mise à distance aussi de la sociologie, alors qu'on pourrait penser qu'il y aurait ce regard transdisciplinaire et assez large, finalement. Elle, ce qu'elle dit, c'est que ce qui consiste à considérer, on va dire, les liens sociaux, les liens familiaux, les liens intimes comme du pur contexte, avec une sorte de mise à distance, c'est ce qu'elle dit, hein, de mise en contexte, texte aussi, n'est pas suffisant pour comprendre l'ampleur de ces phénomènes-là. Et c'est peut-être de ce point de vue-là aussi qu'elle a contribué à renouveler la sociologie en se détachant peut-être d'une sociologie plus classique, entre plein de guillemets.
Ben oui, parce que en fait, ce qu'elle explique là, c'est que elle faisait partie de la génération de ce qu'on a appelé la nouvelle sociologie économique, c'est-à-dire toute une, enfin, un ensemble de chercheurs, surtout des chercheurs. Il y a aussi un enjeu de genre ici, qui sont aux États-Unis, qui se sont mis à nouveau à regarder le champ économique qui avait été délaissé pendant plusieurs décennies. Et ils l'ont fait avec les outils massivement de la sociologie des réseaux. Et donc, en fait, quand elle dit qu'elle est dissidente, c'est pas tellement vis-à-vis de l'économie, puisque très souvent, quand on est sociologue de l'économie, on dit, bah, moi, je me différencie des économistes. Et en fait, là, ce qu'elle dit, c'est je me différencie de mes camarades sociologues de l'économie qui, finalement, ont une vision de l'économie très marchande et qui acceptait l'idée que l'économie avait des frontières et que l'économie était ce qu'elle a appelé dans un ouvrage des sphères séparées, qui a des sphères séparées entre le monde de l'économie et le monde de la famille et l'intime. Et elle a cherché déjà à ne plus avoir de sphères séparées au sein de la recherche, pour ensuite l'étudier dans le monde social.
Sybille Golac, comment on explique que ces deux sphères soient à ce point séparées? Est-ce que c'était une question de manque d'outils, peut-être? On ne savait pas comment se saisir, du point de vue à la fois de l'économie, mais aussi de la sociologie, des questions plus morales, plus intimes? Ou est-ce que c'était vraiment une question de position de principe de la part de certains chercheurs, chercheurs masculins potentiellement?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Viviane Azélizer, elle donne elle-même des clés de compréhension, justement, de cette séparation des objets, avec l'idée qu'il existe un monde économique bien séparé d'autres sphères sociales, puisque précisément, ce qu'au long de sa carrière, elle va essayer d'expliquer, c'est comment, historiquement, émerge cette frontière entre, d'un côté, le marchand, ce que certains appellent, justement, l'économique, et de l'autre côté, les relations qu'on qualifie d'intimes, de familiales. Et pour elle, ça, c'est précisément une construction historique. Et quelque part, bah, cette sociologie économique qu'elle critique, en fait, n'a pas de recul, de réflexivité vis-à-vis de cette frontière, qui rappelle aussi, hein, le fait de contester cette frontière, ça fait aussi écho, hein, aux études féministes qui ont contesté la frontière entre le privé et le politique, etc. Donc, elle critique, en fait, deux types d'approches, celle donc qu'elle appelle celle des mondes antagonistes, donc qui consiste précisément à considérer qu'il y a une sphère économique, une sphère marchande d'un côté, une sphère de l'intime, du familial, de l'amoureux de l'autre, et puis un autre type de vision qu'elle appelle dans un article, puisque c'est aussi pour ça qu'elle est connue en France, c'est qu'elle a été traduite, elle a publié des articles en français. Et donc, hein, qu'elle appelle, dans certains écrits, les approches du rien d'autre que, qui sont en fait des approches un peu impérialistes, hein, typiquement l'approche de Gary Becker, hein, qui propose en économie de la famille, bah, d'expliquer le choix du conjoint, le partage des tâches, par la logique de l'homo economicus. Donc ça consiste à tout rabattre, hein, sur une approche économiste. Et puis de l'autre côté, hein, il y a des approches qu'on pourrait qualifier de culturalistes, qui consistent à tout expliquer par le culturel et elle, ce qu'elle a vraiment de novateur, hein, qui est pas, voilà, quand on la lit, c'est vraiment très riche et ça donne beaucoup à réfléchir et tout n'est pas dénoué, mais c'est l'idée vraiment que l'économique et l'intime sont étroitement liés. Et quand on la lit, hein, il y a vraiment l'idée que ce qui se passe dans la sphère économique, les transformations du capitalisme, va avoir des répercussions dans la sphère de l'intime, mais que ce qui se passe dans la sphère de l'intime pour digérer le capitalisme, ces transformations, eh bien, ça va avoir en retour des effets sur ce système économique.
D'où l'idée d'interaction permanente finalement entre ces deux sphères. C'est intéressant que vous citiez la figure de Gary Becker qui effectivement, peut-être ici à Entendez-vous l'écho, on connaît un peu plus du fait notamment de ses travaux sur le capital humain. Gary Becker qu'elle nomme d'ailleurs dans l'introduction de son ouvrage « Fixer la valeur monétaire des enfants » du plus brillant et du plus éloquent défenseur de l'économie sociologique. Donc tout de même, elle lui reconnaît une forme d'avancée au moins académique. Mais bon, elle dit tout de suite après qu'elle va aller plus loin, on va dire, que cette analyse-là, ou en tout cas proposer un autre regard. Jeanne Lazarus, il y a d'autres géants, on va dire, sur lesquels les travaux de Viviana Zelizer reposent. Elle le dit elle-même aussi. Finalement, cette tradition-là de la sociologie et de la sociologie qui s'intéresse aussi à l'économie et de l'économie qui devrait s'intéresser à la sociologie, elle est entamée dès Émile Durkheim, dès Max Weber. Et ça, Viviana Zelizer, elle le dit. Alors en quoi ces deux penseurs-là ont entamé, on va dire, bien avant Viviana Zelizer, cette marche, on va dire, de la sociologie vers l'économie ou inversement?
Alors, ils ont abordé les choses de façon assez différente. On connaît les travaux de Max Weber sur l'esprit du capitalisme et qui finalement sont ceux qui sont sans doute les plus en écho de ceux de Viviane Zelizer, ou plutôt l'inverse, parce que il s'est intéressé à la façon dont la culture, la religion, mais en fait la façon dont la conception du monde des personnes oriente leurs pratiques économiques. Et ça intéresse vraiment Viviana Zelizer. Et aussi avec une approche historique qui n'est certes pas une approche d'un historien, mais qui montre des mouvements de long terme. Et ça aussi, ça l'intéresse beaucoup. L'approche de Durkheim sur l'économie, ça a été dans cet impérialisme sociologique que l'on regrette bien aujourd'hui lorsqu'on est sociologue, mais qui était de considérer que la sociologie devait s'intéresser à toutes les sphères, et y compris la sphère économique, qui est un des domaines de la vie sociale. Et là, les sociologues de l'économie, tous s'inscrivent dans cette lignée. En revanche, finalement, l'auteur avec lequel Viviana Zelizer discute le plus, c'est Georg Simmel, qui a écrit « Philosophie de l'argent » en 1900. Et ça, dans son livre « La signification sociale de l'argent », elle bataille énormément avec Simmel, en expliquant que... Puisque Simmel, son idée, c'était que dans tous les mouvements de la modernité que connaît l'Europe à la fin du 19e siècle, il y a la monétarisation. Et que cette monétarisation, elle signifie que tout peut être valorisé. C'est ce que disait Sybille Golak à l'instant, ce rien d'autre que tout finalement va finir par être valorisé par cette unique chose qui est l'argent. Et Viviana Zelizer s'inscrit en faux en disant cet argent moderne, il continue à avoir du sens culturel, à avoir une odeur, et donc tout ne se vaut pas dans l'argent moderne. Ça n'est pas vrai que un dollar est un dollar est un dollar, pour reprendre une expression classique en anglais, mais qu'elle utilise dans son livre.
France Culture.
Assurance vie. Regardez la belle définition qu'on vous propose. Assurance vie et succession. Les contrats d'assurance vie permettent de transmettre une partie des capitaux sans droit de succession. Le montant de la transmission varie en fonction de l'âge du souscripteur lors du versement des primes.
Entendez-vous l'écho?
Moins de 70 ans, il y aura un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire sur les capitaux reçus. Plus de 70 ans, abattement de 30 500 euros pour l'ensemble des bénéficiaires.
Aliette Ovine.
Alors, dans son tout premier ouvrage, publié en 1979 et intitulé « Morals and Markets », Viviana Zelizer se penche sur la question de l'assurance-vie. Alors là, il faut nous aider à faire la transition, Sybille Golak. Pourquoi est-ce que c'est spécifiquement ce dispositif-là qui l'intéresse en premier lieu? Qu'est-ce qui vient symboliser, selon elle?
Ce dispositif de l'assurance vie, il symbolise la question de mettre un prix sur quelque chose qui normalement n'en a pas. Puisque, normalement, un prix, déjà à la fin du 19e siècle, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un prix de marché qui équilibre l'offre et la demande. Bon, ben, normalement, si on laisse malheureusement l'esclavage de côté, mais voilà, qu'on se place entre des vies qui sont. Pour les dominants des vies humaines, eh bien, on n'échange pas sur un marché des vies. Donc, il n'y a pas de prix de marché des vies. Donc, la question, c'est comment on peut donner un prix à quelque chose qui n'a pas de prix marchand, mais qui a une grande valeur, puisqu'elle oppose un prix et valeur. Et ça, c'est la question que pose l'assurance vie, puisqu'il s'agit de savoir que doit récupérer quelqu'un qui a perdu, en général, un proche, un très proche.
Et puis, Jeanne Lazarus, vous le disiez, Viviane Azéliseur fait œuvre d'historienne aussi à travers tous ses travaux, quasiment, sauf peut-être un petit peu moins à la fin, on le verra, autour notamment des questions du soin à la personne, encore que, finalement, elle prend aussi ce pari-là que d'étudier des évolutions sur le très long terme. Or, c'est le cas aussi pour l'assurance vie. Elle dit qu'il y a une dimension très vite morale qui vient se greffer à cette question-là. Et là encore, qu'il y a un tournant qui advient tout au long du 19e siècle. Il y a cette idée que désormais, c'est moralement OK, on va dire que c'est compatible avec la morale, que de parier sur l'avenir, le pari étant celui de fait de la mort et de tenter de, on va dire, d'en limiter les conséquences. Et c'est là où on voit que économie et morale sont très imbriquées à travers cette question de l'assurance-vie.
Oui, et d'ailleurs même plus que moralement OK, elle montre que ça devient un devoir sacré d'un père de famille responsable que de payer une assurance vie tous les mois pour protéger son épouse et ses enfants en cas de malheur. Et en fait, sur l'assurance vie, pour elle, c'est un cas très intéressant parce qu'il y a une transformation de la vision culturelle de ce produit financier. Puisqu'au début, les promoteurs de l'assurance vie explique qu'ils ont toutes les techniques actuarielles pour être en mesure de savoir combien on va faire payer à chacun en fonction du risque, en fonction de son âge. Et en fait, le marché ne se développe pas parce que c'est vu comme étant un sacrilège de faire un marché sur l'avenir. Et en fait, ce que font les promoteurs de l'assurance vie, c'est de transformer la définition culturelle de leurs produits. Et donc de montrer qu'être un bon chrétien, ça n'est pas de ne pas penser à l'argent parce que l'argent serait en dehors des choses spirituelles, mais qu'au contraire, être un bon chrétien, c'est penser à protéger sa famille. Et elle montre que c'est par cette transformation du sens moral de l'assurance vie que le marché se développe et devient, le livre démarre, il y a une sorte de mise en récit initiale, où elle explique que l'assurance vie est un marché absolument gigantesque aux États-Unis et que toute famille qui se respecte a une assurance vie. Et elle fait le récit, donc c'est là son approche historique, elle fait le récit de cette histoire paradoxale d'un marché qui est initialement perçu comme vraiment problématique moralement et qui devient au contraire un produit que moralement il faut souscrire.
En fait, c'est là le grand paradoxe qui rejaillit dans toutes les œuvres, tous les travaux de Viviane Azéliseur, c'est qu'au fur et à mesure que la vie humaine quitte la sphère marchande, on va dire, ou quitte une approche, on va dire, plus rationnelle et prend une valeur de fait inestimable, au fur et à mesure que cette transformation se produit, on va quand même lui attribuer une valeur à un prix et de façon peut-être plus décomplexée aussi, qu'il y a cette idée que commercialiser, on va dire, ces vies humaines, alors à travers le dispositif de l'assurance vie, entre autres, devient là encore quelque chose de relativement accepté. Vous l'avez dit, tous les ménages américains ou quasiment ont mis en place cette assurance vie. Vous avez cité le travail des promoteurs, finalement, ce travail de sape peut-être aussi qui consiste à vendre ce produit financier-là, mais il y a peut-être aussi une transformation plus globale qui fait que les ménages en ont besoin aussi, c'est qu'on passe d'une économie du don à une économie de marché de fait et qu'on a besoin d'avoir ces assurances-là puisque les liens de solidarité qui opéraient sous l'économie du don n'ont plus cours, en fait, Jeanne Lazarus. Et c'est ça aussi que Viviane Azéliseur analyse.
Oui, vous avez raison, ça va avec un développement social vers une plus grande individualisation. C'est aussi derrière, évidemment, la question du modèle de protection. Est-ce qu'on est protégé par sa famille? Est-ce qu'on est protégé par sa corporation? Ou est-ce qu'on est protégé par un système marchand entre un individu qui passe un contrat et une compagnie financière? On pourrait aussi penser qu'on peut être protégé par une forme de sécurité sociale, d'assurance collective. Donc, il y a aussi, évidemment, cet enjeu de quel système de protection est derrière. Mais finalement, ce n'est pas tant ça le sujet qui l'intéresse. Ce qu'elle regarde, en revanche, c'est la séparation entre les sphères et le fait que la sphère familiale s'éloigne de la sphère économique, et ça se fait tout au long du 19e siècle, avec aux États-Unis sans doute plus tôt qu'en Europe d'ailleurs. L'enrichissement en fait généralisé de la population fait que on a de plus en plus d'argent qui circule, et notamment dans les familles, de plus en plus d'enjeux économiques à traiter en famille, et en même temps ces questions financières sont censées ne pas devoir entrer en famille parce qu'elles seraient polluantes pour des relations qui ne doivent plus être qu'affectives et désintéressées. Et donc, tout l'enjeu, c'est de voir comment est-ce que les individus, à leur échelle domestique, arrivent à faire en sorte que cet argent qui est présent s'inscrive dans les relations qu'ils souhaitent avoir. Et puis, regarder comment le marché aussi autour valorise des choses, avec parfois des limites. Mais des limites qui peuvent bouger avec le temps parce qu'on a des transformations culturelles, mais parce qu'aussi on a des vraies stratégies marketing ou quasiment idéologiques de compagnies qui vont transformer la vision d'un certain nombre de produits.
Et ça, c'était le cas aussi pour l'assurance vie. C'est que vous avez parlé de ces promoteurs, mais finalement, le marketing prend aussi un relais. Et en fait, on voit que le marketing, sorte d'émanation du marché, si on peut le dire comme ça, impose de nouvelles normes. Ça aussi, c'est une transformation assez, oui, assez fondamentale.
Oui, oui. Mais après, si on fait des... Le comparatisme peut être intéressant parce que en France, l'assurance vie sous cette forme-là, c'est-à-dire l'assurance décès, ce dont elle parle, c'est du capital versé aux survivants, a pas du tout la même place dans le panthéon des normes familiales et des devoirs du bon père de famille. Avoir une assurance décès pour protéger sa famille, c'est pas comme ça qu'on anticipe la protection de la famille. Donc il y a évidemment derrière ça des enjeux socio-économiques, de politique publique, mais qui sont pas tellement abordés en fait dans son travail.
Sybille Golac, on a abordé un point crucial qui est celui du regard d'historienne de Viviana Zelizer. On comprend aussi qu'en fait, elle ne se livre pas du tout à des calculs, des équations pour tenter de comprendre comment évaluer le prix d'une vie humaine. En fait, elle récolte plutôt le travail de ceux qui font ce calcul-là pour tenter de comprendre comment les normes bougent. C'est important, je pense, de le préciser. Mais très concrètement, comment elle mène ce travail-là d'historienne? Est-ce que c'est une femme qui passe sa vie dans les archives? Est-ce qu'elle mène des interviews? Comment elle réalise finalement ce travail d'ensemble de compréhension du calcul de la vie humaine?
Alors c'est beaucoup un travail d'archives, hein, mais d'archives très 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 diverses. Ça peut être des ouvrages de conseils aux ménagères, des comptabilités familiales. Ça peut être aussi des articles de presse, des discours politiques, des textes de loi. Et puis elle s'appuie aussi beaucoup sur l'étude des procès et donc de ces moments où on va devoir expliciter les façons dont on compte.
Alors justement, effectivement, c'est dans les tribunaux que se concrétise, s'incarne peut-être aussi cette nouvelle vision du prix et de fait de la valeur de ces relations personnelles et intimes. Du reste, Viviana Zelizer, elle va continuer à s'en saisir pour... on va dire, analyser d'autres pans et d'autres sections, on va dire, de la société et d'autres transformations qui s'opèrent dans les relations intimes et surtout, quelle place y occupe l'argent? La question reste la même. Peut-on donner un prix aux relations entre parents et enfants, entre conjoints, entre familles? Les Beatles, eux aussi, ont une réponse à apporter. Can't buy me love, love. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give you.
think you say you love me too. I may not have a lot to give, what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. I don't care too much for money. Money can buy me
C'était les Beatles, Can Buy Me Love. Vous êtes bien sur France Culture et nous dressons aujourd'hui le portrait de la sociologue de l'économie Viviana Zelizer, qui a consacré sa vie à comprendre les raisons de l'incompatibilité profonde entre les sphères de l'intime et les sphères de l'argent, pour le dire très grossièrement, on va dire. Un sujet que nous abordons avec les sociologues et chercheuses au CNRS Sybille Golac et Jeanne Lazarus dans cette émission, programmée par Bruno Barada, préparée par Isadora Nebo, mise en onde par Dalia et réalisée par Françoise Le Floch. Alors Sybille Golac, on a pas mal évoqué le fait que finalement c'était cette transition entre le 19e siècle et le 20e siècle qui a beaucoup intéressé Viviana Zelizer. Pourquoi c'est cette période-là qui l'intéresse? On va voir comment ça s'applique au cas effectivement des enfants, on l'a compris avec les assurances-vie. Mais est-ce que c'est une période de transition qu'elle analyse de façon plus globale, on va dire? Qu'est-ce qui l'intéresse dans cette période-là? Et je vous pose la question notamment parce qu'elle se réfère beaucoup aussi à Karl Polanyi, qui a pensé ce grand désencastrement et puis cette mise en marché de fait de biens qui n'étaient pas censés l'être, on va dire la terre, la monnaie, les hommes. Est-ce que c'est cette transition-là qui l'intéresse, ce contexte historique-là qui l'intéresse? Et ensuite, elle voit comment ça s'applique à son champ de recherche précis.
Alors, ce contexte historique, il l'intéresse parce que, de fait, il y a des grands bouleversements à la fois économiques, avec l'avènement du capitalisme, de l'industrie, aussi des bouleversements démographiques. Donc, si on reprend son travail sur la valeur des enfants, ben voilà, on est dans un contexte où, à la fois, il y a un marché du travail salarié qui s'est ouvert, qui objective la participation des enfants des classes populaires à la sphère productive, hein, puisqu'on n'est plus à travailler sur l'exploitation agricole, où finalement hein, c'est plus compliqué de faire la différence entre le travail à vocation marchande et le travail domestique. Donc ça rend visible le travail des enfants. Et puis on est aussi dans une période où le nombre d'enfants par femme commence à diminuer, où l'espérance de vie des enfants va augmenter. Donc ça, et beaucoup de questions ont été posées sur le rapport entre ces transformations démographiques et précisément des transformations culturelles autour de l'importance des enfants, de la valeur qu'on accorde à leur vie, etc. Donc c'est ce contexte-là qui l'intéresse, mais elle montre comment, en fait, on ne peut pas juste dire l'avènement du capitalisme, ses transformations, son extension vont bouleverser ce qui se passe dans la famille. Si on reprend l'exemple de l'assurance vie là, qu'on a commencé à évoquer, et notamment de l'assurance vie des enfants, elle montre comment effectivement à un moment donné le capitalisme propose un produit. Vous pouvez assurer la vie de votre enfant, hein. Votre enfant est censé, donc il s'adresse aux classes populaires, hein, puisque votre enfant est censé vous apporter un salaire, le jour où il décède, il vous l'apporte plus, et donc l'assurance-vie vient compenser cette perte. Et en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'au moment où ces assurances-vie sont proposées, il y a déjà eu des évolutions dans la perception de l'enfance, qui viennent plutôt du côté de la sphère bourgeoise, hein, où là déjà les enfants et les femmes sont cantonnés à la sphère privée, où on ne fait pas travailler les enfants, et elle montre comment du coup coup, dans les classes populaires, ce produit, il va être approprié un peu différemment de l'usage initialement prévu, et en particulier, il va être utilisé en fait pour payer des funérailles aux enfants, des funérailles dignes, voilà, qui peuvent coûter trop cher, hein, pour et que c'est aussi pour ça que ces familles ouvrières vont se saisir très fort de cet outil et y consacrer, hein, une partie non négligeable de leur budget. Et du coup, la façon dont les familles se saisissent avec cette culture émergente autour de la sacralité de l'enfance va avoir des effets sur les façons de compter. En fait, c'est quoi le bon montant que des parents peuvent recevoir pour la vie de leurs enfants? Et ça, on le retrouve, hein, dans l'étude des procès qu'elle fait de parents qui réclament des dommages et intérêts quand la mort de leur enfant a été causée donc par autrui. En particulier, elle s'intéresse aux accidents automobiles. Et elle montre comment les parents à la fois réclament de l'argent, mais ne peuvent pas non plus trop en réclamer. Quelque part, il y a une limite, parce qu'on n'est pas censé se faire de l'argent sur le dos de ses enfants. Et aussi, elle montre, hein, comment cet argent est marqué. Hein, et là, on est en plein dans le débat avec Zimmel, c'est-à-dire, en fait, cet argent, cette monnaie que récupère les
parents, il va avoir une charge.
Il est marqué, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, donc avec des parents qui vont donner cet argent à des œuvres caritatives ou qui vont l'utiliser pour le transmettre, voilà, avec des usages vraiment très spécifiques.
Alors, pour bien comprendre de quoi on revient finalement aussi au 19e siècle et à ce tournant du 19e au 20e, je vous propose d'écouter un enfant très célèbre du 19e siècle et qui, pour le coup, n'appartenait pas franchement aux classes aisées.
Twist, tu vas venir avec moi. Tu vas être présenté au conseil de la paroisse.
Messieurs, j'ai le regret de constater que l'on abuse sans vergogne de notre charité.
Oui.
Les pauvres se croient tout permis et considèrent cet asile comme un lieu de plaisance. Notre devoir est d'y mettre bon ordre, et nous allons faire cesser ce scandale. Entrez. Approche. Ah, dossier numéro 6. Comment t'appelles-tu?
Olivier. Olivier Twist, monsieur.
Sais-tu que tu viens d'avoir 9 ans?
Non, monsieur.
Un crétin.
Écoute-moi bien. Sais-tu que tu es orphelin?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous voyez bien, il est complètement idiot. Chut! Tu sais que tu n'as ni père ni mère et que tu vis aux frais de la paroisse. Le sais-tu?
Oui, monsieur.
Dis-tu bien tes prières chaque soir?
Oui, monsieur.
Pries-tu pour ceux qui te nourrissent et qui prennent soin de toi?
Oui, monsieur.
Bon. Eh bien, maintenant, tu vas apprendre un métier utile. Tu commenceras à démêler de l'étoupe demain matin à 6 heures.
Voilà, tout service rendu mérite travail, on va dire. Dans le monde d'Oliver Twist, on ne reçoit pas, on n'accueille pas gratuitement même les orphelins. La charité a ses limites. Jeanne Lazarus, on le comprend, il va y avoir un changement de paradigme. L'enfant va sortir de ce monde du travail. Alors la loi va accompagner de toute façon cette transformation-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans quand même l'exact inverse, qui est cette sursacralisation de l'enfant qui quitte donc ce système de valeurs qui était celui finalement du salaire rapporté par son travail? Comment se produit ce changement-là selon Viviane Azéliseur?
Alors le changement, comme l'expliquait Sybille, c'est que on a des évolutions globales des modes de vie, de la société, de la représentation de la famille. Et puis, cette idée que les enfants doivent être éduqués, enfin, le nouveau travail des enfants, ça va être d'aller travailler à l'école, et non pas pour gagner de l'argent. Mais on peut aussi considérer que le moment où quand on entend là Oliver Twist, le moment qu'elle décrit où les enfants rapportent un salaire, c'est finalement un moment spécifique qui est celui du début de la révolution industrielle. Parce que avant la révolution industrielle, certes, les enfants travaillaient au champ, mais c'était dans un système qui n'était pas forcément valorisé monétairement. Donc, on a cette période, en fait, spécifique où les enfants sont valorisés monétairement par l'argent qu'ils rapportent. Et ça, les sociétés évoluent et ça fait partie aussi des dénonciations quand on a toutes les descriptions, que ce soit celle de Marx et d'Engels ou celle de Villermé en France, de la pauvreté ouvrière. Une des choses qui frappe le plus, c'est ces enfants qui sont envoyés au travail. Enfin, c'est pas quelque chose qui est considéré unanimement comme normal et comme une bonne chose pour l'ensemble de la société. Donc c'est finalement une évolution qui est lente, mais qui se fait au cours du 19e, de se dire que les enfants doivent apprendre des choses. Il y a aussi un besoin d'avoir une main-d'œuvre qui sait plus de choses, qui sait lire et écrire, parce qu'il y a une transformation de l'économie. Et à partir du moment où les enfants sortent du champ de l'économie, leur valorisation ne peut plus être une valorisation par le salaire qu'ils auraient rapporté. Alors, dans les cas où on doit valoriser monétairement les enfants, qui sont des cas très spécifiques,
oui.
Bah, où c'est les cas d'accident, en fait. Et c'est pour ça qu'elle s'intéresse beaucoup à tous ces procès autour de la mort des enfants, parce que c'est en fait ça qu'elle va regarder. C'est les moments où on valorise monétairement les enfants, c'est quand il leur arrive quelque chose. Et là, donc, il faut trouver des moyens de faire cette valorisation. Et ça devient un objet évidemment absolument passionnant pour une sociologue de l'économie, c'est de regarder comment on valorise en dehors du salaire, qui est finalement l'outil qu'on avait, qu'on a développé au 19e pour valoriser la valeur d'une personne. C'est qu'est-ce qu'il rapporte sur le marché du travail. Et donc si on regarde c'est pas le marché du travail, il va falloir trouver d'autres critères. Et ce qui est intéressant dans les procès, c'est qu'on voit à quel point c'est compliqué de trouver ces critères et que tout le monde va avancer différents arguments pour essayer de se mettre d'accord.
Et c'est vrai, Sybille Golla, que ce que j'allais vous poser la question, finalement, pourquoi ce sont les tribunaux qui cristallisent à ce point, on va dire, les recherches de Viviane Azeleser, les tribunaux, et a fortiori, pourquoi est-ce à l'aune de la mort qu'on arrive à mesurer le coût d'une vie. Mais c'est vrai que ce qu'elle voit dans ces archives que vous évoquiez, c'est que, on le voit très précisément dans l'ouvrage, je trouve ça assez impressionnant qu'il y a un point de bascule. On voit vraiment que les débats deviennent de plus en plus tendus, il y a des vraies tensions au sein de la société. Dès lors qu'un juge estime que la vie d'un enfant revient à même pas un dollar, je crois, là ça va commencer à ne plus passer dès les années 1860-1870. En fait, les tribunaux pour Viviane Azeleser sont une façon à la fois de mesurer l'opinion publique et aussi d'avoir effectivement ce prix de l'enfant entre guillemets exprimé en dollars, enfin en monnaie sonnante et trébuchante. C'est en ça que les tribunaux sont intéressants.
Ah oui, parce que effectivement, ils lui permettent de voir ce moment hein, où des juges disent ce sera 0 dollar ou 1 dollar symbolique, qui sont le moment où précisément on ne peut plus calculer la valeur d'un enfant par la somme actualisée des salaires qu'il aurait rapporté à ses parents, mais on ne sait pas encore comment compter. On sait que les juges sont embêtés, ils disent oui, évidemment, la perte d'un enfant, c'est monstrueux, c'est énorme, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et petit à petit, hein, on voit au travers des affaires qui se succèdent, que se mettent en place petit à petit d'autres façons de calculer.
D'autres façons de calculer, mais qui témoignent tout de même que les sommes sont de plus en plus importantes. C'est peut-être là aussi
alors
le paradoxe.
Voilà, du coup, les sommes deviennent beaucoup plus élevées. Ce qui n'est pas sans lien aussi avec qui sont les enfants dont on évalue la valeur, puisque ceux qui travaillaient et dont on pouvait estimer la valeur par l'actualisation par la somme actualisée de leur salaire, c'était des enfants des classes populaires, et puis qu'à un moment, des parents de la bourgeoisie se sentent légitimes à réclamer des dommages et intérêts pour la mort de leur enfant, et là on est sur des enfants dans lesquels, puisque une des façons de compter qui va être proposée, qui fera pas consensus, mais qui est proposé, c'est de voir combien les parents ont investi dans leur enfant. Et là, effectivement, plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus les parents ont investi dans leur enfant.
Alors, je voudrais vous faire écouter le cas d'un autre enfant célèbre, beaucoup plus tardivement, mais qui dit aussi quelque chose du rôle économique de l'enfant au sein des familles. C'est un extrait des Cactes sans coup de François Truffaut.
Bonsoir, maman.
Bonsoir, bonsoir.
Où est la farine?
Quelle farine?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne m'as pas acheté ce que j'avais marqué. Où as-tu mis le mot que je t'avais laissé?
Je l'ai perdu.
Hein, pas étonnant, après ça, que si mauvaise note.
Allez, va me chercher mes mues. Elles sont dans la chambre. Sous le lit. En attendant, moi j'ai besoin de farine. Allez, va m'en chercher tout de suite.
Regarde ton fils. Quel enfariné.
T'assure que je n'ai pas envie de plaisanter.
Ah, tiens, moi qui croyais justement...
Rends-moi la monnaie.
Ah, il me faut de l'argent pour la cantine.
Oui, bien, adresse-moi à ton père.
Tiens,
allez.
Les hirondelles veulent pas, dis donc, à cette heure.
Pas pour la cantine, il me faudra un peu.
Qu'est-ce que tu dis?
Il me faut juste 1000 francs, pas seulement.
Si tu me demandes 1000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, voilà 100 balles. Tiens, voilà 500, va.
Merci.
Mais en principe, c'est ta mère qui paie ça.
Antoine, n'oublie pas les ordures et éteins la lumière dès que tu seras couché.
L'autre fait intéressant de cette sacralisation de l'enfant, Jeanne Lazarus, c'est qu'on ne cesse pas pour autant de faire travailler quand même les enfants au sein de la famille. On l'entendait dans cet extrait des 400 coups, un film qui est sorti en 1958, donc bien plus tard. Ce sont des menus services que l'on demande aux enfants, mais qui sont censés les éduquer, peut-être plus que de justifier, on va dire, que l'on dépense de l'argent pour eux, en l'occurrence pour aller à la cantine ou pour les nourrir au quotidien.
Oui, alors là, on entre dans les grands débats sur les modèles de parentalité. Est-ce qu'il faut négocier avec ses enfants que mettre le couvert vaut tant de centimes et laver la voiture en vaut tant? Ou est-ce que ils doivent naturellement participer aux tâches ménagères? Donc, les avis, évidemment, divergent et sont tous extrêmement bien argumentés. Mais en fait, là, ce qu'on voit, c'est les enjeux de circulation de l'argent au sein de la famille.
Aussi, oui.
Où c'est un argent qui n'est justement pas, on n'est pas dans le marché du travail. Donc c'est pour ça que chaque famille va inventer ses règles, parce qu'il s'agit surtout des relations entre les personnes, et l'argent devient un outil éducatif pour les enfants. Cela dit, c'est pas seulement un outil éducatif, parce qu'il y a aussi la question de la contrainte économique, et selon les groupes sociaux et selon la fortune ou pas des parents, ces questions d'argent dans la famille peuvent être des vraies questions économiques. C'est-à-dire que le risque, si on dit c'est toujours des enjeux culturels, des enjeux de normes sociales, c'est que parfois on peut aussi mettre de côté les enjeux de contrainte économique pure et dure. Qui se mêle évidemment avec ces autres enjeux qui sont plutôt culturels et normatifs.
Et puis il y a un dernier thème que aborde Viviane Azeliser dans Fixer la valeur monétaire des enfants, c'est aussi celui de l'adoption, qui alors décentre peut-être un peu le regard, mais qui reste tout de même dans cette sphère de la famille. Jeanne Lazarus, elle parle quasiment explicitement d'un marché de l'adoption. Elle voit une demande exploser aussi, là encore au moment où l'enfant devient sacré, entre guillemets, elle voit qu'il y a une demande qui est beaucoup plus assumée, beaucoup plus concrète, beaucoup plus formalisée aussi en termes de demande d'enfants sur ce marché qu'est l'adoption.
Oui, alors elle dit que jusque-là, en fait, le problème, c'était des familles qui avaient trop d'enfants et qui ne savaient pas comment les élever et qui les envoyaient.
Alors même qu'on pourrait se dire que trop d'enfants, c'est plutôt bien, parce que ça fait de la force de travail, de fait.
Oui, mais c'est aussi jusqu'à ce que l'enfant soit en âge d'être productif, il peut au contraire appauvrir la famille, les parents, la mère en particulier, qui ne peut pas travailler. Donc, on passe de cet enjeu-là, en fait, qui était plus central, à l'enjeu de familles qui n'ont pas d'enfants et qui sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour effectivement quelque chose qui devient un marché. Et là, on voit bien qu'on est dans ces sphères séparées, parce que même pour nous, quand on en parle, le fait d'utiliser le mot marché pour parler de l'adoption, on voit bien qu'on a quelque chose
de gêne, effectivement. Oui.
Voilà, qu'on n'a pas envie de décrire de cette façon-là. Et en même temps, c'est justement pas forcément un prix marchand. Et c'est, on est dans des zones où il y a des transferts d'argent, il y a des prix qui sont donnés, mais pour les acteurs de ces marchés-là, enfin qu'on pourrait décrire de l'extérieur comme des marchés, ils ne sont pas dans une transaction marchande. Ils sont dans autre chose. Ils sont prêts à payer, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent, mais ils ne veulent
pas un calcul non plus.
Non, et ils ne diront jamais qu'ils ont acheté un enfant, parce que ce serait une transgression complète de la façon dont on perçoit le lien entre parents et enfants aujourd'hui. Ce faisant, en fait, en sortant du marché, on est prêt à payer des prix sans doute beaucoup, beaucoup plus élevés que ceux qu'on aurait on avait un marché classique, si on peut dire.
France Culture.
Je suis restée sous le lit tout le matin pour qu'on pense que j'ai fugué. Je trouve qu'on fait pas très attention à moi.
Entendez-vous l'écho?
C'est pas que je suis égoïste, mais je suis un enfant, on doit s'occuper de moi, sinon je peux mourir.
Aliette Ovin.
Alors, Viviane Azeliser ne s'arrête pas là. Elle va reprendre cette question de la façon dont les questions d'argent s'imposent, et notamment face à la mort, en étudiant le cas notamment du règlement financier des dommages humains causés par les attentats des Tours et puis du Pentagone le 11 septembre 2001. Les familles des disparus ont alors eu le choix entre intenter un procès en dommages et intérêts, alors à titre individuel, ou de recourir à un fonds, le Fonds fédéral d'indemnisation des victimes, qui a été mis en place par le gouvernement américain à l'époque, l'avocat Kenneth Feinberg fut chargé de l'administrer et puis de décider de la façon dont il allait répartir les sommes entre les blessés et puis vis-à-vis des familles des disparus. Une tâche extrêmement ardue. Et puis là encore, on parlait de cette fameuse gêne, mais effectivement, qui moralement est très complexe et que relate le film À quel prix ?
Écoutez-moi, en tant que juriste professionnel, je peux vous assurer que ce serait une erreur de courir après un procès.
Vous avez perdu quelqu'un ?
Oui.
Vous avez perdu un membre de votre famille ?
Laissez-moi vous expliquer. Le Congrès m'a demandé de calculer et d'établir une valeur économique. Économique, s'il vous plaît, je comprends. Je comprends ce que vous ressentez.
Vous comprenez ?
Écoutez, s'il vous plaît, je voulais dire que je compatis. Non, écoutez-moi, en tant que professionnel du droit, je peux vous assurer que la procédure durerait des années et vous ne seriez pas sûr d'avoir gain de cause. Je vous propose de l'argent facile et net d'impôts. Pensez à ce que ça veut dire pour vous. Dans ce jeu, c'est la seule stratégie qui vaille le coup.
Nous avons étudié vos tableaux et ils ne nous plaisent pas. Votre plan d'indemnisation ne tient compte que des revenus annuels. Et les commissions, les primes, nous représentons des gens qui pèsent lourd.
Ce sont des revenus trop aléatoires. On n'a aucune base de travail. On est obligé de s'en tenir au salaire.
Non, c'est inacceptable.
Il faudra que vous retiriez la clause de déduction de l'assurance vie.
On n'est pas ici pour négocier, je crois que...
Pourquoi pénalise-t-on les familles de nos clients qui ont été prévoyants ?
S'il vous plaît, on ne pénalise personne.
Merci, Lee.
On paye nos clients pour les dissuader d'intenter des actions.
J'aimerais souligner que la réglementation exige que les revenus soient pris comme base de calcul des indemnités. Mais nous avons opté pour un forfait fixe. Pour chaque personne décédée, d'un montant de 200 000 dollars. Alors bon, ce chiffre, c'est le minimum.
C'est une somme à partager avec d'autres personnes ou uniquement les familles qui sont ici ?
Non, elle n'est pas à partager. C'est pour chaque cas.
Sybille Golex, ce qui est intéressant dans ce cas et qui est déjà une dimension qu'on a vue un petit peu avec le cas des enfants entre classe populaire et classe beaucoup moins aisée, c'est que là, dans le cas de ces indemnisations-là, bon, et ce qu'on entend mais qu'on ne voit pas forcément à l'image, c'est que la solution qui a été mise sur la table a paru tout à fait convenable, on va dire, ou en tout cas satisfait, avec bien sûr plein d'exceptions, mais les victimes issues de classe plus populaire, tandis que les proches et familles des PDG, enfin en tout cas de celles et ceux qui avaient un revenu bien plus important, s'estimaient lésés. Cette dimension, elle est très forte chez Viviana Zelizer. Dans quelle mesure on peut dire que son travail repose aussi sur une compréhension d'une forme d'antagonisme de classe ?
Alors son travail, il montre un antagonisme de classe, mais il s'intéresse pas seulement à ce rapport social-là. C'est-à-dire effectivement, il y a comment dans les différentes classes sociales, on réussit à faire valoir, la valeur d'un lien, d'un attachement, etc. Mais elle travaille aussi sur les rapports d'âge, par exemple, on parlait tout à l'heure des enfants, et elle montre comment sur le marché de l'adoption au 19e siècle, les enfants qui valaient le plus cher, qu'on plaçait le plus facilement, c'était les garçons adolescents. Et ceux qu'on plaçait le plus difficilement, c'était ces nourrissons qui ne pouvaient rien produire pour l'instant. Tandis que plus tard, au XXe siècle, les enfants les plus recherchés sont les bébés, puisque ce qu'on cherche, c'est un enfant qu'on va aimer, qu'on va élever soi-même. Et puis, il y a aussi les rapports sociaux de sexe. Elle montre bien, sur ces histoires de dommages et intérêts, comment les parents n'ayant pas investi de la même façon au début du 19e siècle, ils investissaient bien davantage dans les études de leur fils que de leur fille. Et puis on espérait des revenus plus importants pour un homme que pour une femme. Ça aboutissait à des dommages et intérêts qui pouvaient être différenciés du point de vue du genre. Donc elle est très attentive à la façon dont les rapports de domination en fait vont façonner les façons de calculer et les résultats des calculs.
Et c'est vrai que cette dimension du genre, elle est aussi présente dans le cas spécifique de ces attentats du 11 septembre 2001. Je crois qu'il y a des organisations féministes qui ont fait pression sur ce fameux avocat pour prendre en compte, Jeanne Lazarus, il va falloir nous expliquer aussi quels paramètres sont rentrés en jeu, mais en tout cas ces organisations féministes sont rentrées dans le débat pour qu'on évalue aussi le travail qu'auraient pu accomplir les victimes femmes, alors qu'on évaluait beaucoup le travail des hommes, et notamment des pompiers. Tous ces paramètres-là sont rentrés en jeu lors de cette grande phase d'indemnisation qui s'est mise en place après les attentats.
Oui, c'était vraiment très intéressant à analyser, évidemment, pour elle, à la fois la situation qui s'est passée, mais aussi le fait que l'État américain a cherché à être très ouvert dans ce moment d'indemnisation. Et donc, initialement, seuls les salaires étaient pris en compte. Donc déjà, on l'entend dans l'extrait, calculer le salaire d'une personne, un trader de 30 ans, combien aurait-il gagné dans la vie qu'il attendait. Donc évidemment, il y avait plein de façons de calculer les choses. Déjà, donc les salaires, c'était pas simple. Et ensuite, effectivement, on a soulevé toute une série d'autres sujets. Et donc le fait que la valeur économique, et donc ce qui est intéressant, c'est que ici, ce qu'on entend au début de l'extrait, il s'agissait de tout transformer en valeur économique. C'était ça l'accord de départ, mais cette valeur économique, il fallait aller la chercher et ils ont accepté d'aller la chercher dans tous les domaines. Et donc, les associations féministes ont fait valoir que la valeur économique des femmes ne se réduit pas à leur salaire, puisque il y a toute une série de choses qui sont du travail gratuit. Donc ça va aussi dans le sens d'une vieille revendication féministe consistant à valoriser les tâches ménagères, l'éducation des enfants, le soin aux personnes âgées. Donc on a accepté de prendre en compte ces éléments-là. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il y a eu aussi des enjeux de ce genre concernant les hommes. Donc elle cite l'exemple des parents d'un pompier disant « Notre fils, qui était très bricoleur, réparait le toit,
prenait
soin du robinet, etc. Mmh. » Et donc aujourd'hui, on doit faire venir un artisan, ça coûte tant. Et alors, ce qui est évidemment troublant, c'est qu'on passe sans cesse de relations familiales, évidemment le drame d'avoir perdu son fils, son mari, à la valorisation économique à travers des devis. Elle montre aussi les disputes qu'il y a eu pour savoir qui devait recevoir l'argent. Par exemple, un couple séparé, le mari qui réapparaît alors qu'il n'était plus dans la vie de son épouse pour récupérer les sommes. Et donc la façon de... Comment est-ce qu'on démontre devant un tribunal qu'il y a une séparation entre les personnes, eh bien, on va passer par des outils économiques. On va montrer que on n'a pas le même compte en banque, qu'on ne partage pas, que le salaire du mari ne servait plus du tout à entretenir son épouse et ses enfants.
Et à l'inverse, ce qui est encore plus complexe, prouver que cette relation existe bien, et c'était notamment le cas des couples homosexuels, si je me souviens.
Oui, oui, oui. Là aussi, elle donne des exemples, si je me rappelle bien, d'une femme qui fait valoir que sa compagne est décédée et la famille de la compagne cherche à être indemnisée et donc à dire mais non, ça n'était pas du tout sa compagne, c'était sa colocataire. Donc elles vont aller chercher par exemple l'abonnement commun au club de gym pour prouver qu'elles avaient une relation amoureuse. Donc on passe par des outils administratifs et économiques pour prouver les relations non économiques.
Sybille Golac, on a amorcé un autre champ de recherche de Viviana Zelizer, celui de la prise en compte finalement de ce travail du soin, du care. C'est un article qu'elle va y consacrer, qui a été traduit en français, je crois, en 2008. Là encore, tout est question aussi de la valeur de l'argent, de savoir que l'argent gagné par les femmes n'a pas forcément la même valeur que l'argent gagné par les hommes. Mais là encore, Viviana Zelizer, elle propose une autre analyse du care. Quel regard elle porte sur ces soins apportés à la personne et dans quelle mesure on peut dire que c'est un regard féministe aussi?
Sur les soins apportés à la personne, la question se pose en particulier de la dimension sentimentale de ces soins et à quel moment aussi on peut poser une limite entre précisément un travail marchand qui délivre du care et un travail non marchand, à la différence entre le travail d'une mère, le travail d'une baby-sitter ou d'une nounou. nous. Et en fait, il y a tout un tas de... Viviane Elizer s'intéresse beaucoup à ce qui permet à la fois aux agents de qualifier les relations. Comment est-ce que, en fait, alors même que, comme vient de l'expliquer Jeanne, on n'arrête pas de faire circuler de l'argent dans la famille et d'assurer du travail, eh bien, il faut quand même rassurer sur le fait que c'est bien des relations familiales. Et inversement, quand même, parfois, une conduite économique, avoir un compte commun, ça permet précisément de bien qualifier qu'on est dans une relation conjugale.
Et on voit comment les relations personnelles influencent à la fois le marché, mais aussi, inversement, comment le marché influence de fait les relations personnelles. Merci infiniment à toutes les deux, Jeanne Lazarus et Sybille Golac, d'avoir participé à cette émission.